Agathe Charnay est co-directrice artistique de la compagnie La Vie Grande au Havre. Elle est aussi autrice, metteuse en scène et comédienne. Rencontre avec les élèves de l'option théâtre du lycée Gimond d'Aubenas. La première partie, c'est sur Info RC.
Trop bien. Ok, enchantée. Du coup, moi, c'est Agathe. J'ai 33 ans. J'aime bien dire mon âge parce que je trouve que ça permet de voir un peu où je me situe dans l'échelle des générations. Donc, je suis née au début des années 90. J'ai grandi à Toulouse. Et aujourd'hui, je suis basée dans le 93 en région parisienne, mais j'ai beaucoup une vie où je voyage, où je prends le train, puisque comme je fais du théâtre, je suis amenée à être énormément sur les routes, partout en France. Donc j'ai un peu tendance à dire que je vis dans un wagon SNCF. Par exemple, là je suis à Montélimar, mais la semaine prochaine je suis à Grenoble, la semaine dernière j'étais à Clermont-Ferrand, demain on joue avec ma compagnie en région parisienne, donc je prends le bus de nuit ce soir, après le festival des cafés littéraires, pour être à l'heure pour le montage à Saclay. Donc voilà, c'est une vie assez itinérante, avec des moments quand même plus calmes où je peux être un peu posée, mais c'est quand même une vie beaucoup sur les routes. Comme vous, vous êtes en option théâtre, je peux un tout petit peu vous parler de mon parcours, de comment j'ai fait pour devenir aujourd'hui autrice de théâtre, metteuse en scène et dramaturge, et puis je vous raconterai un petit peu comment j'écris. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui écrivent, qui ont envie d'écrire, ou qui ont envie de faire de la mise en scène, ou qui ont envie d'être comédien, comédienne. Donc voilà, je pourrais un peu vous parler de ça. Et puis après, si vous avez des questions sur mon travail, avec grand plaisir pour vous répondre. Donc moi, j'ai fait collège, lycée, général, tout ça. Et puis à 17 ans, j'étais à Toulouse et je suis montée à Paris, comme on disait, pour faire des études universitaires. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. Moi, mes deux parents sont profs. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que dans la famille où j'ai grandi, il y avait quand même un gros accès à la culture et voilà, j'ai été baignée assez jeune là-dedans, donc c'est une chance. Voilà, on a tous des cartes en main différentes, il y a mille manières d'arriver à ces métiers-là, les métiers artistiques. On n'est pas obligé de grandir dans une famille de profs pour ça, mais c'est aussi pour dire voilà, qu'il y a plein de parcours différents et moi je sais que j'ai la chance d'avoir grandi dans ce milieu-là où on m'a sensibilisée très jeune au texte, à l'amour du texte et à l'amour des mots. Et j'ai aussi adoré les études. J'ai adoré le collège et le lycée, pas forcément pour... le collège était dur là, pour la partie humaine, mais j'étais toujours hyper excitée d'aller en cours. J'étais ce genre d'élève un peu insupportable qui avait de la joie profonde dans l'apprentissage et j'ai continué ça assez longtemps puisque j'ai fait presque 8 ans d'études en tout universitaire. J'ai fait Sciences Po à Paris. À côté de ça, j'ai fait des lettres à la Sorbonne. J'ai fait un master de journalisme et puis j'ai terminé par une école qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, qui est une école que pour la recherche, où j'ai fait de la recherche sur les questions de genre. Donc ce qu'on appelle les études de genre, la sociologie du genre, c'est se poser des questions sur comment le monde est différent selon comment on est catégorisé d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire si on est considéré comme un homme, comme une femme, selon qui on aime, selon aussi de quel milieu social on vient, selon comment on est considéré dans une société, etc., etc. Donc à l'aide de toutes ces petites ramifications, ça permet d'étudier un peu comment les dominations s'exercent au sein d'une société. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et en parallèle, j'ai toujours fait du théâtre. J'ai commencé en conservatoire quand je suis arrivée à Paris. J'avais aménagé mes études pour ça. Et puis, le théâtre, j'ai fait aussi une école à Vitry-sur-Seine. Et progressivement, le théâtre s'est mis à prendre de la place, de la place, de la place. J'ai fondé une compagnie assez jeune, à 20 ans. J'ai créé une compagnie avec des amis. Puisque quand on arrive ensuite en études de théâtre, en conservatoire, dans les villes où il y en a des conservatoires en études supérieures, du coup, on rencontre plein de copains, un peu comme vous aujourd'hui, même dans les options théâtre. Et on commence à faire du théâtre ensemble, à côté des cours, on commence à inventer monter des pièces, à se réunir, à monter des petits projets, à se dire oh là là, on pourrait aller au Festival d'Avignon. Nous, on était allés au Festival d'Avignon en vendant des couscous pour payer la salle. Enfin, voilà, on s'était vraiment lancés. Et en fait, en travaillant avec les amis, on n'avait pas envie de monter des pièces qui existaient déjà. On se disait, ah, on a envie de monter nos propres histoires, de créer nos propres rôles aussi, parce que dans le théâtre contemporain que vous étudiez, c'est pas du tout vrai, mais dans le théâtre classique que moi j'ai quand même beaucoup appris et étudié en cours, les rôles n'étaient pas toujours passionnants pour les femmes. Par exemple, ce merveilleux, incroyable, hallucinant auteur qui est Shakespeare, que j'aime lire énormément, il a écrit près de 500 rôles et il n'y a qu'une vingtaine de rôles de femmes. Donc vous voyez, le répertoire classique est assez pauvre aussi. Et souvent, c'est soit des jeunes premières, soit des femmes qui se font maltraiter, soit du coup, il y avait aussi quelque chose de bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme rôle? Et même pour les hommes, qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre que jouer des personnes dans le conflit, etc. Et du coup, on s'est mis aussi, puis on avait envie d'écrire un théâtre qui nous ressemblait, qui ressemblait à nos vies, qui ressemblait à nos préoccupations, qui ressemblait aux questions qu'on se posait tous les jours. Et du coup, voilà, on s'est mis à écrire. Et nos propres spectacles. Et notre tout premier spectacle, c'était un spectacle d'après Roland Barthes, Les fragments d'un discours amoureux. Et en fait, on avait repris le texte de Barthes, qui est un super beau texte, une sorte d'abécédaire de l'amour. Et nous, on avait 20 piges, et on n'était que des nanas, et on racontait nos histoires d'amour. Voilà, je ne sais pas si c'était très passionnant, on était très fiers de ce spectacle. On est partis à Avignon avec et tout. Et petit à petit, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'écrivais beaucoup. J'avais toujours beaucoup écrit. Un peu journal intime, poésie, sans me rendre compte forcément que c'était de la poésie, mais j'écrivais souvent des petites choses comme ça sur des carnets. J'ai des années de journaux intimes dans mon ordi. Moi, j'écris que à l'ordi. Donc, il faudrait que j'imprime tout ça un jour, si jamais ça disparaît. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours eu ce lien très fort à l'écriture, mais je m'étais jamais dit que ça pouvait être partagé. Enfin, pour moi, c'était mon truc, quoi. Et en fait, grâce au théâtre, j'ai commencé à écrire pour mes copains, surtout des textes qui me faisaient marrer, pour des choses que j'aimais bien chez eux. Je me disais, toi, avec ta voix, tu pourrais faire ci, toi, avec ton énergie, tu pourrais jouer telle chose, et ce serait hyper bouleversant si toi, tu faisais ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'écrivais de plus en plus, les pièces étaient de plus en plus moi, jusqu'à commencer à réaliser que peut-être je pouvais être autrice. Moi, de base, je pensais que pour faire du théâtre, quand on était une femme, c'était forcément actrice. Et en fait, progrès, parce que aussi, quand on dit auteur de théâtre, souvent, on voit quelqu'un de mort, déjà. Ou alors avec une longue barbe blanche. Et c'est un mec, et il est blanc, et il est vieux, quoi. Enfin, je veux dire, globalement, on n'a pas trop d'autres représentations d'auteurs-autrices de théâtre. Et en réalité, le paysage littéraire théâtral français... il est vraiment en train de bouger et il y a vraiment des gens qui viennent de partout et qui ont toute forme de style, de manière de s'exprimer, d'origine, etc., qui écrivent. Mais ça, moi, je ne le savais pas encore. Donc pour moi, il fallait que être actrice.
Pour conquérir et garder le plus longtemps possible
le pouvoir,
repousser ma date de péremption programmée, rester le plus longtemps visible, intégré et apprécié, je dois
arracher,
limer,
polir,
peser,
poser,
couper,
tailler,
enduire,
gommer,
désincruster,
raffermir,
purifier,
appliquer,
muscler,
masser,
épiler,
désintoxifier,
dissimuler,
fixer,
absorber,
recourber,
appliquer,
raser,
ôter,
repulper,
gainer,
lubrifier,
redessiner,
exfolier,
et reproduire le geste
au minimum tous les jours, deux fois par semaine, pendant deux heures toute l'année,
pour faire disparaître
les boutons à tête jaune,
le gras au-dessus de la ceinture,
la cellulite sous la culotte,
les vergetures zébrées sur les hanches,
le petit point noir sur le nez,
les odeurs dans la culotte,
pour anéantir
les rides d'expression autour de la bouche,
Les poils entre les seins,
le blanchissement des cheveux,
le jaune à incruster sur les dents,
les rougeurs l'hiver sur les joues,
le sang qui pue entre les cuisses,
les perles grumeleuses dans la culotte,
pour prévenir
les odeurs tapis sous les aisselles,
la place qui est derrière les bras,
le pot qui tombe et qui forme un gloire sous le ventre.
Je dois accepter que mon corps parfait est pétri d'imperfections qui chaque jour ressurgit sous une nouvelle forme. Je dois accepter que mon existence sera consacrée à cette lutte sans fin.
Yeah. Et c'est un peu ce que je dis dans Ceci est mon corps, là, sur les extraits que vous avez lus. Je pensais qu'il fallait correspondre à une certaine norme physique qu'à mon époque, ou à mon époque, on dirait que j'ai 300 ans, mais pas du tout. Mais il y a 15 ans, on ne faisait que nous dire le désir du metteur en scène sur les actrices. Enfin, du coup, ça nous mettait dans un truc un peu chelou, quoi. Et en fait, j'ai réalisé que non, on pouvait complètement être de l'autre côté, non seulement dans l'écriture, mais aussi la mise en scène. Mais ça m'a pris pas mal de temps de réaliser ça, parce que metteur en scène, c'est encore un métier où quand même, en tout cas, il y a 15 ans, moi, dans le théâtre à Toulouse où j'allais, il n'y avait aucune femme metteuse en scène. Il n'y avait pas une meuf dans les programmes, quoi. Donc, du coup, j'avais du mal à me dire que c'était possible. Et en fait, là, ce qui est génial en ce moment, c'est que c'est en train de bouger fois 1000 et que les programmations sont de plus en plus paritaires, qu'on travaille de plus en plus à la question de la diversité sur les plateaux, de la diversité vraiment au sens large aussi, et que du coup, le théâtre se met à ressembler un peu plus à la vie. Je ne sais pas si vous allez souvent au théâtre, du coup, à Valence ou à Priva ou quoi, mais il y a quand même un gros changement sur les plateaux pour que le théâtre se mette un peu plus à la page, quoi, et que ça ressemble un peu plus à la vie qu'on voit. Et je pense qu'un des devoirs des auteurs contemporains, c'est de réfléchir à ces questions-là, de ne pas reperpétuer... Et notre répertoire, il est hyper beau, il est hyper riche, il est hyper important, mais il faut le faire changer pour qu'il ressemble aussi à la société qui est celle qu'on vit aujourd'hui et que le théâtre puisse répondre aux grands enjeux de la société. Sinon, il passe à côté du monde, quoi. Donc il faut que ça puisse se connecter. Pour moi, les deux sont hyper importants. C'est super d'aller voir du Molière, du Racine, du Marivaux, etc. Mais c'est aussi tout aussi important qu'on continue à être un art vivant. C'est-à-dire un art qui répond aux sursauts et aux nécessités du monde. Donc voilà, il y avait un peu ces biais d'empêchement. Et quand j'ai compris que je pouvais être autrice et metteuse en scène, et d'ailleurs, moi, dès que j'écris « Bonjour, je suis Agathe Charnay, je suis metteuse en scène », mon correcteur automatique m'écrit « Je suis menteuse en scène ». Parce que le mot n'existe pas pour Google, quoi. Donc je suis pas menteuse en scène. Et autrice, pareil, c'est un mot pour moi, il est ultra important, ultra précieux, ultra beau. Pourquoi on ne dit pas auteureux ? On peut dire auteureux, mais autrice, c'est un mot qui existe en fait depuis le Moyen-Âge. On disait doctoresse, peintresse, poétesse, autrice. Et au XVIe siècle, le grammairien Bozet a institué avec l'Académie française cette règle qu'on connaît tous, le masculin l'emporte sur le féminin, et on a supprimé toutes ces fonctions qui étaient féminisées, mais sans qu'on se pose la question, quoi. C'était normal, comme, je sais pas, un poulard, une pouliche, quoi. Enfin, et du coup, auteur, autrice, le mot autrice, on n'a aucun problème à dire facteur, factrice, instituteur, institutrice, mais voilà, autrice a disparu. Il a été néantisé comme ça par l'histoire, et du coup, il y a toute une vague, une autrice qui s'appelle Aurore Evin, dont vous parlera, je pense, peut-être Léonore Cofino, parce qu'elle la connaît bien, quand vous la rencontrerez, qui est géniale d'ailleurs, Léonore, vous avez trop de chance de la croiser. Ouais, elle est trop super. Ouais. Puis Léonore, elle est très engagée, elle a fondé un collectif d'autrices aussi qui s'appelle Créature. Enfin, je pense qu'elle vous en parlera, mais c'est vraiment quelqu'un aussi qui est très à fond sur tous ces sujets-là. Et du coup, voilà, c'est un mot aussi qu'on emploie avec joie parce qu'il permet de s'identifier tout simplement et de faire exister le fait qu'il y ait aussi des femmes autrices. Pour le moment, on n'est pas beaucoup, on n'est que 17% à être montés sur les plateaux de femmes autrices. Donc vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup, 17%. Mais petit à petit, ça monte. Et un jour, on se posera, j'espère, plus la question de si la personne qui écrit est un homme, une femme, une personne non-binaire, une personne blanche, une personne racisée, etc., etc. On se dira juste trop cool un écrivain. Mais aujourd'hui, comme il y a encore plein de biais d'empêchement et de discrimination dans nos sociétés, c'est super important de visibiliser les choses pour qu'un jour, pour moi, j'espère, on puisse ne plus s'en rendre compte et tout simplement vivre dans un monde où on repérera des voix, des singularités et des talents. Mais la lutte est encore longue. Voilà, donc ça, c'est petit à petit comment ça s'est fait. Et puis, depuis, c'est chouette. Ça fait 10 ans maintenant que je fais du théâtre et que c'est mon métier. Au début, j'étais aussi un peu journaliste. J'ai bossé pour Le Monde et j'ai bossé aussi pour des plateformes de podcasts. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la radio. Et ce qui m'intéressait, moi, en tout cas, d'un point de vue plus artistique, c'est vraiment... c'est raconter des histoires. Quand j'étais petite, j'étais un peu chelou, je pense, quand j'étais en primaire comme enfant. Mais bon, tous les enfants sont un peu bizarres, mais j'étais un peu bizarre. Et du coup, j'avais pas trop d'amis, mais ma manière, parce que j'avais beaucoup trop d'amis imaginaires, je pense, mais ma manière de me faire des amis, c'était de raconter des histoires aux gens. Et ils venaient me voir à la récré pour avoir la suite. Il n'y avait pas 300 personnes autour de moi, il y en avait une ou deux qui aimaient bien mon histoire. Mais du coup, c'était un peu comme ça que je faisais. Et je crois que écouter les histoires des autres, aller à la rencontre d'eux, observer un peu comme un journaliste, puis réfléchir et inventer une histoire, c'est toujours ça mon métier. Et depuis toute petite, j'ai su que c'était un peu ça que je voulais faire et qui me plaisait. J'ai dû choisir le médium. Ça aurait pu être journaliste, en effet. Ça peut être écrire, ça peut être le théâtre, ça peut être enseigner aussi, puisque c'est transmettre des histoires. C'est un métier auquel j'ai beaucoup pensé et j'enseigne d'ailleurs souvent, finalement, le théâtre ou l'écriture. Mais du coup, c'est ça que j'ai suivi comme ligne directrice. Et aujourd'hui, avant de commencer un texte, c'est toujours ça que je me demande. Je me dis, c'est trop de chance, quoi. Mon métier, c'est raconteuse d'histoires. C'est quand même trop bien. Et après, on s'amuse. Et puis moi, j'adore aussi mettre en scène, à rassembler. Voilà, on fait un petit rêve tout seul dans sa chambre, quoi. En gros, j'aime bien cette idée-là. Et petit à petit, on va mettre en place tout un dispositif. C'est ça qui est magique avec le théâtre. Moi, j'écris aussi d'autres formes que du théâtre, qui sont plus solitaires. Mais ce que j'adore avec l'écriture théâtrale, c'est qu'après on rassemble une équipe et vraiment le rêve, il va durer plusieurs années, puis il grossit, puis il y a 30 personnes qui bossent dessus, puis après on joue devant une salle de 300, puis après il part en tournée et après ça grossit tout en restant dans des échelles très humaines. C'est aussi ça que j'aime bien dans le théâtre. Je m'étais à un moment posé la question peut-être d'écrire pour le cinéma, tout ça. Moi, ce que j'adore aussi, c'est que c'est un art vivant, c'est un art éphémère. C'est un peu inutile, c'est hyper archaïque de faire du théâtre. On est là, c'est juste un humain qui parle devant... Déjà, un humain qui parle devant un humain, c'est du théâtre. Il n'y a pas de pub. C'est un des rares... Non, mais c'est vrai, c'est un des rares endroits. Alors maintenant, ça commence dans le privé. Ils commencent à fourrer des bandes-annonces avant les spectacles dans certains théâtres à Paris, ce qui est horrible. Mais ça, nous, on fait un théâtre de service public. Enfin, moi, je vis dans un théâtre de service public, tout comme l'éducation est aussi de service public. Donc non, il n'y a pas de pub. Ça reste quelque chose qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, ce que je trouve intéressant aussi. Enfin, je veux dire, on sait bien qu'on ne va jamais devenir... multimillionnaire et quand on fait du théâtre, c'est pas ça qu'on va aller chercher. Et du coup, cette espèce d'archaïsme, je le trouve hyper beau. Et ce que j'adore, c'est que c'est du présent. C'est que tout à l'heure, vous étiez un peu stressée, mais en fait, c'est un art de l'accident. Moi, dans les mises en scène que je fais, enfin, moi, je joue plus parce que j'adore vraiment regarder les acteurs, mais il y a tout le temps des bugs dans mes représentations. C'est impossible sur une repré de 2 heures. Qui n'est pas un petit bafouillis, qui n'est pas quelqu'un qui fait tomber un access, qui n'est pas un régisseur qui oublie un top, mais c'est ça qui est magique. Ou qui n'est pas un spectateur qui tousse ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, dès que le noir se fait, vous verrez, c'est le sanatorium. Il y a une espèce de truc dans la tête des gens. Dès qu'il fait noir dans une salle, tout le monde tousse et tout. Voilà. Et moi, je suis là, mais pourquoi ils toussent ? C'est ma mère, maintenant. Mais en hiver, je suis furieuse quand les gens toussent au moment hyper émouvant et tout. Je suis là, mais non. Arrête. Mais bon, les pauvres. Et donc, du coup... C'est du vivant, c'est du présent, et c'est un des rares endroits au monde. Moi, je suis très, très connectée comme humain. Ultra, mon cerveau détruit directement par Mark Zuckerberg et tous ses copains. Vraiment, le scroll m'a tué, mais il continue de me tuer chaque jour. Et c'est un des rares endroits où je suis obligée, et même vous, accordez-vous cette joie de poser le téléphone 2 heures et juste d'être dans l'immédiateté du présent et l'échange quand on est en répète, quand vous jouez, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et je me dis, ça aussi, c'est un peu un acte de résistance poétique, de conserver des espaces où on est au présent entre humains et où on se parle et où on est ensemble et où on respire, même si on s'ennuie, même si on pense à autre chose. Cette méditation, quand on est devant un concert ou un spectacle, est tellement particulière, elle permet à tellement de nouvelles idées d'arriver, même quand le spectacle est trop chiant, on pense à autre chose, ou même quand il est magnifique, ça amène des... un peu une sorte de transe quoi, méditative, que je trouve extrêmement précieuse et que j'ai moins devant un film, hein, même si le cinéma est un art magnifique ou la série et tout. Mais du coup, voilà, c'est aussi ça que j'aime bien. C'est, comme dit Cyrano, c'est encore plus beau parce que c'est inutile et nos mises en scène, elles disparaîtront et on oubliera les acteurs et on oubliera nos noms. Mais on aura vécu ces instants de présent où on va dans toutes les villes avec... On m'a demandé hier si j'étais en roulotte, j'étais là, non, je prends le train, désolée, mais je n'ai pas mon cheval qui m'attend, ou alors l'effondrement réchauffement climatique n'est pas encore arrivé à ce point-là. Mais du coup, voilà, c'est cette relation-là que je trouve très belle et qui fait que j'aime particulièrement écrire pour le théâtre parce que j'aime les comédiens, j'aime les comédiennes, j'aime écrire pour eux, j'aime rêver pour eux, j'aime rêver à leur voix. Souvent, j'entends la voix des acteurs avant même d'écrire. Je dirige beaucoup les yeux fermés, ce qui est hyper bizarre. Mais je suis là, oui, là, c'est comme ça qu'il faut dire. Là, mais tu m'as pas vu, je suis là. Non, mais c'est bien. Ça sert à rien que je te vois, je sais que c'est bien. Après, j'ouvre les yeux quand même, parce qu'il y a tout le travail de la scénographie et de la lumière. Il serait pas content. Mais du coup, et j'aime ensuite ce que ça fait de partager un spectacle tous ensemble, que la représentation soit bonne ou pas bonne. Le bruit de l'ennui est intéressant et le bruit de l'émotion... aussi. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça. Et concrètement aussi, peut-être, comment je gagne ma vie. Ça, c'est aussi une question que je trouve intéressante. Moi, j'aime beaucoup parler d'argent parce que je trouve que c'est important que nos métiers s'inscrivent dans des conditions matérielles. On n'est pas des êtres évanescents. Il y a un livre que j'aime bien, c'est « Les artistes ont-ils besoin de manger ?» Oui. Et aussi, on fait un métier, et un métier où il y a des règles, où il est censé avoir des règles, un droit du travail, une déontologie. Il y a beaucoup en France cette espèce de fantasme du réalisateur ou du metteur en scène ou de l'artiste, vous voyez, qui est complètement fou, qui dit merde à tout le monde et qui casse les chambres d'hôtel et qui fait n'importe quoi. Et quand c'est un homme qui viole toutes les nanas qui passent à la seconde, comme on a vu dans le mouvement MeToo, qui respecte personne. Et en fait, cette image, elle est ultra dangereuse. Parce que ça a fait que on se retrouve aujourd'hui avec les affaires qu'on a, avec des gens qui se sont permis n'importe quoi et de détruire des vies parce qu'ils sont artistes. Et je pense pas que l'œuvre nécessite qu'on détruise des vies autour de soi. Donc on est aussi beaucoup dans nos générations à réfléchir là-dessus, à l'éthique de nos métiers et à essayer d'être non seulement de bons artistes, artisans dans nos arts et tout, mais aussi des humains acceptables, même si on est des humains faillibles. Et ça va aussi par les conditions matérielles. Il y a Virginia Woolf, je ne sais pas si vous connaissez cette autrice anglaise merveilleuse, 19e, fin 19e, début 20e, qui a écrit un livre très important qui s'appelle « Une chambre à soi ». Je ne sais pas si on avait déjà entendu parler. Une chambre à soi, en gros, elle pose la question pourquoi les femmes n'ont pas écrit jusqu'ici. Elle est à la fin du 19e, elle est là, mais pourquoi est-ce que finalement, sommes-nous nuls sommes-nous des nullités? Sommes-nous défaillantes? Avons-nous été incapables d'écrire 3 mots? C'est pas possible. Et en fait, elle provoque un peu, mais elle réfléchit et elle dit évidemment que les femmes ont écrit Émilie Brontë, qui est une très belle autrice anglaise aussi. Elle écrivait dans sa cuisine et puis quand les gens arrivaient, elle couvrait ses manuscrits avec les épluchures pour pas qu'on voit ce qu'elle était en train de faire, tellement le poids de la censure était fort. Et elle dit non seulement... En fait, les femmes, ce qui leur a manqué, et quand on dit les femmes, on peut parler de toute catégorie d'humains qui est minorisée ou oppressée à un temps donné. En gros, pourquoi en France, on n'a que une littérature qui vient quand même d'hommes blancs et hétéros, quoi, par exemple, dans nos patrimoines? Mais parce qu'en fait, il faut des conditions matérielles à l'écriture, il faut du temps. Si vous écrivez vous-même, vous devez vous rendre compte que vous manquez de temps. Vous voyez ce que je veux dire? L'écriture, ça mange un temps fou. Enfin, c'est très long. Et puis, ça, du coup, il faut du temps. Si on a toute sa journée où on doit bosser ou si on doit s'occuper des gamins et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut du temps, absolument. Il faut un lieu à soi. Il faut un temps de concentration, même un lieu symbolique. Hein, un petit coin de bureau, une chambre. On ne peut pas tout écrire dans la cuisine au milieu des épluchures. Au bout d'un moment, Émilie Brontë, elle a dû finir par avoir sa chambre à elle pour écrire. Et il faut 500 livres de rente. Il faut un petit peu d'argent. Pas des milliers et des cents, mais un petit peu. Juste pour pouvoir... les artistes ont-ils besoin de manger? Oui. Et du coup, elle dit tant que ces conditions ne sont pas réunies, un être ne peut pas produire une œuvre. Donc, il y a aussi toute cette réflexion en France et... Le service public est bien mis en danger en ce moment de la culture pour qu'il puisse y avoir des artistes de toutes origines, de tous bords, qui puissent écrire et qui puissent avoir leur voix qui sont entendues. Non, elle dit en gros, si Shakespeare avait une sœur et que Shakespeare avait eu la sœur, mais tout aussi merveilleusement douée que lui, de toute façon, on n'aurait jamais entendu parler d'elle parce qu'elle n'aurait jamais eu les conditions pour pouvoir exprimer son talent. Donc voilà, j'aime bien cette idée d'une chambre à soi. Donc moi, je suis intermittente du spectacle, qui est un statut de l'assurance chômage dont je vous passe les détails, mais qui du coup fait que j'ai une petite sécurité. Chaque année, je dois faire un certain nombre d'heures de travail pour avoir cette petite sécurité pendant 12 mois, voilà. Quand si vous avez des amis comédiens, ils vous diront « je dois faire mes heures ». On est tous en train de courir après les heures. Donc moi, je fais de la mise en scène. Je suis dramaturge, je collabore avec d'autres metteurs ou metteuses en scène que j'accompagne dans leurs gestes de création. Je travaille beaucoup avec Lorraine de Sagazan, qui est associée à Valence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des spectacles d'elle, mais elle est associée à la Comédie de Valence. Elle fait aussi de l'écriture contemporaine. Et puis, voilà, je mets en scène mes textes, je fais des ateliers d'écriture et j'ai mes livres et un peu de ce qu'on appelle le droit d'auteur. Mais ça, très sincèrement, les amis, si vous voulez écrire et que vous voulez gagner de l'argent, en fait, écrivez pas du théâtre, parce que ça vous rapportera jamais rien. C'est une toute petite niche, c'est comme la poésie, c'est rare qu'on aille en librairie et qu'on dise « bonjour, je vais vous acheter tout votre rayon théâtre ». Souvent, on va voir les romans. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Donc, il y a des groupuscules de lecteurs de théâtre et de lecteurs de poésie, et merveille qu'ils existent, et tant mieux. Mais par contre, on a la joie d'avoir nos textes joués. Mais l'objet livre, c'est un prolongement, mais qui n'est pas une obligation pour vivre, quoi. Je dirais, on est beaucoup d'auteurs aussi à ne pas être publiés. Enfin, moi, tous mes textes n'ont pas été publiés. La publication, c'est hyper agréable d'avoir l'objet. Mais y a aussi le bonheur que ce soit joué, surtout. Voilà, en gros, comment ça se passe. Donc, je dirais qu'artiste aujourd'hui, c'est être... si vous avez envie de faire ça, bah, allez-y. Enfin, on vous dira toujours, ah, c'est dur, c'est la crise. Moi, depuis que je suis née, on me dit, c'est la crise. Les ours polaires sont sur une banquise qui fond. Et puis, c'est la crise des subprimes, et c'est la crise du Covid, et c'est la crise de machin. Enfin, tous les moments de mon existence, on m'a toujours dit, c'est la crise. Donc, quoi qu'il arrive, c'est la crise. Et la crise, après tout, c'est un état de rupture qui veut dire un changement. Donc, voyons joyeusement la crise. Allez-y, mais il faut être prêt à avoir très, 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 très envie de faire ça. Il faut que ce soit la chose que vous vouliez le plus au monde de la Terre. Parce que même concrètement, c'est aussi une vie où on est beaucoup sur les routes. Alors nous, on se bat beaucoup pour avoir eu aussi des vies de famille, des vies privées. Ça aussi, on est moins absolutiste que les anciennes générations. Toutes les femmes, c'est des mademoiselles jusqu'à la fin de leur vie qui devaient se consacrer à l'art et tout. Mais du coup, c'est quand même, on rate quand même beaucoup les anniversaires et tout, quoi. Parce que bah, si ça joue, ça joue. Donc voilà, donc il faut quand même être prêt à aimer beaucoup. Mais en échange, on vit avec nos copains. Donc ça aussi, c'est chouette. C'est aussi une vie beaucoup de famille choisie. On a nos vraies familles et puis on a aussi la famille du théâtre où on vit ensemble en résidence, on va boire des coups, on joue. C'est quand même une vie ouais, de troupe, quoi. Beaucoup, beaucoup. On vit dans plusieurs troupes. Et après, il faut être un peu prêt à faire feu de tout bois. Un peu comme je vous dis, moi, j'ai plusieurs métiers qui me permettent d'avoir un gros métier. L'avantage, c'est que je décide de mes horaires, je décide de mes jours de travail, je décide de beaucoup de choses, donc je suis super libre, et ça, c'est trop chouette. Mais il faut être prêt à avoir beaucoup d'énergie et à être très malin. Voilà, donc si vous vous sentez malin et à fond, et que vous avez envie de faire du théâtre, allez-y, et ça marchera, c'est sûr. Aucun doute là-dessus.
C'était la dynamique Agathe Charnay, autrice, metteuse en scène, dramaturge et comédienne, dans ce premier reportage sur Info RC. Elle qui dit qu'elle a fait beaucoup trop d'études était en visite au lycée Marcel Gimond d'Aubenas pour rencontrer les élèves de l'option théâtre.